Allô Daniel, bonjour, bonne rentrée, ici Flora. Alors pendant que l'on massacrait à Gênes, Adventi Popolo à la Riscossa, Bandiera Rossa, triomphera. Bon, que se passa-t-il? Eh bien, il y eut à l'état civil l'inscription de 6000 et quelques Loana en France. Rends-toi compte, mon petit Daniel, il n'y en avait que 200 ou 300 fleurs du soleil d'origine italienne. 6000 Loana! Qu'est-ce qu'on va faire avec une bande de cons pareils qui appellent leur gamine Loana? Pauvre gamine! Voilà, c'est ce que j'avais à te dire. C'est bien triste de voir ça. Ah, si Hitler avait eu la télé, il aurait été le maître du monde. Salut, mon petit Daniel, on t'attend avec impatience.
Bah oui, mais il avait la radio, Hitler, hein. Goebbels fut un propagandiste formidable grâce à la TSF à l'époque. Voilà, je vois que Flora, l'une de nos auditrices, tournée une auditrice qui s'appelle Flora, parmi les 500 000 auditeurs et auditrices de la Bassigisfille, il y a Flora qui célèbre à sa façon les 6000 petites Loana qui sont nées, enfin qui ont été baptisées ainsi au cours de l'été. Aujourd'hui, on va retrouver Jean-Claude Guilbeault, notre ami Jean-Claude Guilbeault, qui sort un livre qui s'appelle « Le principe d'humanité » qui, c'est peu de le dire, évoque et traite et nous éclaire sur des questions essentielles, le principe même de notre humanité. Mais d'abord, d'autres messages déjà parvenus sur le répondeur de la base, j'y suis, 01 56 40 37 37.
Ouais, allô Daniel ? Bon, comment alors là, je viens de téléphoner là pour des places de vendangeurs là, parce qu'ils se plaignent qu'ils en trouvent pas dans le Bordelais. Là. Alors voilà, nourriture comprise. Alors ils comptent 43,72 francs par comment multiplié par 2,5 par jour, ce qui correspond à 109 francs 3 centimes exactement. Et c'est payé 43 balles de l'heure. Donc il te reste par jour pour vivre 192 balles. Après, ils se plaignent qu'ils trouvent pas de saisonniers. Bon, moi, vive Alain Madelin, et puis vive Thatcher, et puis vive tout le monde, et puis voilà. Voilà, donc, je voulais en rester là, parce que j'ai les glandes. Hein. Parce que moi, je vais pas bosser pour 192 balles par jour. Hein. Je sais pas à quel tarif tu bosses, toi, mais j'espère que c'est plus haut que ça, parce que sinon, mon pauvre, je te plains. Bon, allez, salut.
Salut, Daniel. Alors, fini les vacances. Bon, j'espère que tu t'es bien régalé, bien reposé, que tu vas nous montrer les reportages. Eric Fayence, comité d'initiative citoyenne. Ici, on a une activité un petit peu chargée. Certains d'entre ceux qui t'écoutent ont lu dans les journaux la bagarre qu'on mène contre un ghetto de milliardaires sous prétexte d'un golf sur le canton. Une petite idée aussi à diffuser, à critiquer, à explorer, à réfléchir. Pour les prochaines élections législatives, au lieu d'être simplement des électeurs, devenez candidat. Vous n'avez pas besoin de signature, vous n'avez pas besoin de parrainage. Ça coûte 1200 francs, il faut avoir 23 ans et être inscrit sur les listes électorales. On en reparle. Hein. Ciao, viva, porte à Tibet.
Oui, allô, bonjour Daniel, c'est Serge, un fils de l'immigration portugaise des années 60 qui est né en France. Je voulais téléphoner pour témoigner du fait que tout le monde parle aujourd'hui des exactions commises par la France sur le territoire algérien. Il faut savoir en fait que c'est l'ensemble des anciennes puissances coloniales qui continuent, enfin qui à l'époque en tout cas, agissait de la même façon que la France, et notamment le Portugal, puisque je peux témoigner qu'en Nouvelle-Guinée, certains militaires appelés des contingents portugais attachaient des corps au bout de filins et se promenaient dans tous les villages à l'aide d'avions et en fait martyriser les populations locales en les effrayant tout simplement puisque le corps était suspendu au bout d'un filin et bien évidemment traîné pendant des kilomètres en heurtant les arbres et les cases. C'était juste un témoignage pour éclairer le fait que cette monstruosité n'est pas uniquement liée à la France mais bien un problème typiquement colonial. Merci Daniel.
Bonjour Daniel, c'est Fred. Il n'y a pas très longtemps avec d'autres copains, donc j'ai créé la Fédération Autonome des Rêveurs Saltimbanques parce qu'on veut lutter aussi contre la marchandisation des spectacles en tout genre, de la culture en gros avec un grand C, enfin bon on sait plus trop ce que ça veut dire. Le 4 août prochain 2002, date d'abolition des privilèges, on va lancer l'opération Tas de Merde devant l'Olympia. chaque artiste sera invité à venir avec un seau de merde de son choix, de la crotte, de la bouse et tout ça, et à verser devant l'Olympia. Et pour inviter Jean-Marie Messier à débattre en public avec nous, pourquoi ce monsieur se rachète tout. Avec la bénédiction du gouvernement, personne n'a bronché, l'État laisse faire, alors que c'est fait partie quand même du patrimoine de tout le monde. Et on a un gouvernement de gauche qui bronche pas, Messier rachète tout. On a marre, hein, ces mecs qui rachètent tout. Parce qu'un jour, il va aller rester quoi? Il va rester quoi au terrien? Il y aura plus qu'un groupuscule de mecs là, qui vont tout s'approprier. Donc, opération temps de merde le 4 août prochain. Donc, on lance ça avec des copains. Vous saurez tout dans notre prochain numéro de la Forge des Bœufs, puisqu'on avait tiré un numéro zéro à faible tirage. Mais donc, dans la Forge des Bœufs, on vous expliquera tout. Je ferai passer ça là-bas si j'y suis. Voilà. N'hésitez pas à vous joindre à nous. Allez, salut!
Salut, c'est Daniel Mermet avec Jean-Claude Guibaud. Là-bas, si j'y suis, le principe d'humanité.
Flight number 2, arriving from New
York. Alors, on y va? Allez-y.
Aide-moi ta plume pour écrire un mot. Ouvre-moi ta porte pour la... pour de...
Amour de qui?
De Dieu.
Bravo.
Homme ou robot? Demain, l'homme sera-t-il cette machine à visage humain, ou bien cet animal l'homme, ou bien l'homme magasin qu'on vend ou qu'on répare en pièces détachées, ou bien l'homme sur homme, le plus apte, les autres ayant été enfin éliminés. Alors que nous ne parlons que de droits de l'homme, d'humanitaire de l'homme, d'humanisme de l'homme, ne sommes-nous pas déjà en train de glisser vers la post-humanité? Clonage, manipulation génétique, greffe d'organes, tentation de l'homme-machine, depuis fort longtemps, l'on s'interroge sur les limites, les frontières entre l'homme, la matière, l'animal, la machine, la créature, le créateur. Depuis longtemps, le savant fou dans son laboratoire, ses alambics et ses grimoires, qui finit par donner vie à la créature qui lui échappe, est une figure de notre humaine réflexion sur notre humaine condition. Qu'est-ce que l'humanité de l'homme? Vaste question, a-t-elle toujours été posée? Et les réponses qu'on y a apportées ont-elles toujours été les mêmes? Eh bien non! Depuis ceux qui entendaient créer de toutes pièces un homme nouveau, jusqu'à ceux qui, il y a peu, ont voulu éliminer l'homme, lui dénier son humanité, on voit que l'humanité ne va pas de soi. Ce n'est pas un acquis, à tout jamais acquis, évident, naturel. Aujourd'hui, bien sûr, comme jadis, on s'inquiète des progrès et des avancées de ce qu'on appelle la technoscience. Pour répondre à ces inquiétudes, peut-on s'en remettre aux scientifiques eux-mêmes? Rappelez-vous de ce qu'on nous disait à l'école, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Peut-on s'en remettre au comité d'éthique ou de bioéthique? Quelqu'un appelle ces comités des jardins d'acclimatation, c'est-à-dire qui acclimatent, qui nous font admettre les avancées de la technoscience. Ce qui peut légitimement nous inquiéter aujourd'hui, c'est la frénésie de la course au profit déchaînée sans limite. Ce qui peut nous inquiéter aujourd'hui, c'est la fabuleuse puissance de la révolution numérique, informatique. À toutes ces questions, Jean-Claude Guibaud tente de répondre dans un essai qui paraît ces jours-ci intitulé « Le principe d'humanité, c'est au seuil, avec cette petite phrase, pour commencer, l'humanité n'est pas héréditaire.
Avant de prendre place à bord du vaisseau cosmique Vostok. Chers amis lointains ou très proches, chers compatriotes, habitants de tous les pays et de tous les continents, dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature. Un combat sans précédent avec la nature.
Jean-Claude Guilbault, on va d'abord parler, si vous voulez, de votre démarche, de ce qui vous a conduit à vous attaquer à ce continent, hein, véritablement, comment on va dire, de la technoscience, parce que c'est quand même ça dont il s'agit, un domaine très intimidant. Mais on va d'abord parler de votre démarche. Vous êtes, faut-il le rappeler, journaliste, hein, éditeur, et vous êtes un généraliste, vous n'êtes pas du tout un scientifique, et vous êtes entré dans ce travail, dans ce domaine, comme un journaliste, c'est-à-dire c'est un travail d'enquête et c'est un travail de reportage.
Il faut que je rende hommage à deux personnes qui m'ont beaucoup encouragé à faire ce travail de, au fond, de passeur de messages, quoi. C'est Castoriadis, que vous connaissez bien, Daniel, qui est mort il y a quelques années, qui m'a toujours énormément encouragé à faire ce travail de transdisciplinarité, à essayer de relier entre eux des savoirs qui s'ignorent, au fond, à faire mon boulot de journalisme, mais appliqué aux idées. Mmh. Et puis, il y a Edgar Morin, évidemment, dont c'est l'obsession depuis des années, qui lutte lui aussi contre la parcellisation des savoirs et qui m'a lui aussi beaucoup encouragé à faire ce travail transversal. Pourquoi faire ce travail? Parce qu'au fond, si on laisse les connaissances se replier chacune dans sa spécialité, se compartimenter, se parcelliser, alors en fait, on fait échapper le savoir à nous, à chacun de nous. Et on se décharge de toute responsabilité, et on se livre à tous les phénomènes de domination ou d'intimidation possibles. Il y a une espèce de devoir citoyen de résister à cela, à cette opacité de la connaissance.
C'est pas facile, hein. C'est pas facile, il faut de l'audace, parce qu'évidemment, là il s'agit de la science, hein. C'est par nature et par culture intimidant, on est très intimidé quand on arrive là, parce qu'on se dit, ils s'y connaissent, il y a des chercheurs, il y a des spécialistes.
Bien sûr. Puis ça a toujours été comme ça. Regardez, autrefois, les gens qui voulaient poser des questions impertinentes sur le cléricalisme ou sur le poids clérical dans une société, on leur opposait un savoir théologique qui était inaccessible pour eux. En gros, on leur disait, vous n'y connaissez rien. Encore hier encore, les gens qui voulaient poser des questions dérangeantes sur l'économie, surtout depuis 10 ans, depuis l'effondrement du communisme, sur les questions monétaires, dont on savait bien qu'il y avait des enjeux de pouvoir là-dedans, on les renvoyait à leur ignorance, en disant « mais vous n'y connaissez rien ». Quoi ? Parler du franc, parler de l'euro, parler des taux d'intérêt, il y avait déjà ce phénomène d'intimidation qui consiste à renvoyer le citoyen à sa prétendue ignorance, c'est-à-dire à prendre les gens pour des imbéciles. Aujourd'hui, c'est la technoscience qui tient ce discours arrogant, dominateur, dogmatique, et qui est en même temps un discours mensonger. Pourquoi ? Parce que dans chacune de ces disciplines scientifiques, il y a des débats. Les savants ne sont pas tous d'accord entre eux. Aucun savant contrairement à ce que disent certains, n'est titulaire de la vérité absolue. Tous sont dans le relatif, dans le débat, dans la discussion. En outre, comme l'ont dit très souvent certains philosophes, je pense à Georges Canguilhem, derrière tout savoir scientifique, il y a aussi de l'idéologie qui se cache. Et le discours scientifique n'est jamais seulement scientifique. Il est toujours plus idéologique qu'on le croit. La science n'a pas de légitimité pour édicter une morale, pour définir quel est le bien et le mal. La science, disait Heidegger, ne pense pas. Mmh. Ça veut dire qu'elle n'est pas capable de produire des normes. Ce n'est pas son boulot. Alors évidemment, on cite l'exemple des nazis, on a oublié qu'au début des années 30, une majorité des prix Nobel scientifiques allemands ont adhéré au national-socialisme.
Voilà.
Donc ouais. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu de jugement politique. C'est bien la preuve que on ne peut pas arguer de je ne sais quel savoir scientifique pour prétendre à un jugement politique ou moral ou éthique. C'est là le grand malentendu aujourd'hui, c'est que le malentendu entre la société et les savants. Les vrais savants nous disent « Dites-nous quelle science vous voulez ». Et nous avons, nous, tendance, dans notre naïveté, à croire que les savants, c'est eux qui vont définir la société dans laquelle nous allons vivre demain. Mmh. C'est le même malentendu qu'avec les économistes.
Dans une ontologie des erreurs de jugement, il y aurait beaucoup de déclarations de scientifiques. Hein. Là, vous citez un prix Nobel d'économie, Herbert Simon, qui en 65 disait, je cite, « Les machines, d'ici 20 ans, seront capables de faire tout ce qu'un homme peut faire. » Il disait ça en 65. Un autre chercheur, Marvin Minsky, assurait, je cite, « La prochaine génération d'ordinateurs sera si intelligente que nous aurons bientôt de la chance s'ils consentent à nous prendre chez eux comme animaux de compagnie. »
Mais Daniel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de grands savants peuvent dire des âneries.
Voilà.
Mais je peux vous en citer un autre exemple encore plus révoltant et encore plus invraisemblable. Francis Crick, prix Nobel, l'un des pères, avec Watson, de la génétique. L'inventeur, le co-inventeur de la structure hélicoïdale de l'ADN. Donc c'est vraiment le père de la génétique. Vous savez ce qu'il a dit il n'y a pas si longtemps que ça dans un congrès? Il a dit, à mon avis, on devrait soumettre chaque nouveau-né à un test génétique avant de décider s'il mérite ou non d'être considéré comme un humain. De grands savants disent des énormités, parce que tout d'un coup, ils s'aventurent imprudemment dans un domaine, celui de la norme morale ou éthique, qui n'est pas de leur ressort. Donc, il ne faut pas être intimidé par les savants, il faut être respectueux de leurs connaissances. Mais il faut comprendre que chaque fois qu'un savant devient dogmatique, il cesse d'être un savant. Il devient un scientiste arrogant.
Jean-Claude Guilbeault, le thème au fond de votre bouquin, c'est science et conscience. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, on nous disait quand on était gamin. Est-ce que c'est nouveau? Là, tout d'un coup, vous nous dites, attention, panique, l'humanité, le principe même d'humanité est menacé. Vous citez Marie Balmary qui dit, ça c'est l'exergue de votre bouquin, c'est votre point de départ. Hein. L'humanité n'est pas héréditaire, mais est-ce que c'est nouveau? C'est pas d'hier qu'on se soucie de ça. Au 19e siècle, la science progresse, la science domine, remplace la religion. Et va s'étendre ce débat, cette crainte face au pouvoir du scientifique, avec ces moyens d'intimidation que vous venez de décrire, ça c'est pas nouveau.
Ce qui est nouveau, c'est la Shoah, Daniel. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a 50 ans, il s'est passé quelque chose dans les camps qui nous empêche définitivement de considérer cette question avec innocence. Je veux dire par là, depuis la Shoah, on ne peut plus discuter tranquillement, comme on l'a fait pendant des siècles, de la question de l'humanité de l'homme, où s'arrête l'homme et où commence l'animal, où s'arrête l'homme et où commence la machine, etc. Depuis la Shoah, on ne peut plus. Pourquoi? Parce que le crime des nazis n'a pas seulement été quantitatif. Ça n'a pas été seulement de tuer des millions de personnes, principalement des juifs. Le crime des nazis a été aussi et peut-être surtout qualitatif. Ils ont voulu éradiquer ce qu'il y avait d'humain en l'homme. Ils ont voulu ramener le déporté au rang de l'animal, au rang de la chose. Et
le déni de l'humain, vous dites.
L'éradication de l'humain. Or, aujourd'hui, et je suis parti de ce constat dans mon livre, sans aucun esprit anti-scientifique et tout, mais aujourd'hui, ces différentes frontières se trouve remise en question.
Mais elles ont toujours été mises en question,
oui,
ces frontières.
Mais nous savons désormais jusqu'où cette remise en question peut conduire. Et c'est aujourd'hui la science qui remet en question la frontière entre l'homme et l'animal, la frontière entre l'homme et la machine, la frontière entre l'homme et la chose, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut refuser ces connaissances nouvelles qui nous obligent à changer notre perception de ces frontières. Mais il y aurait un grand danger à laisser, sous prétexte que nous avons une connaissance nouvelle de ces frontières, à laisser ces frontières se dissoudre. Il faut les redéfinir, il faut les refixer. Pourquoi ? Parce que l'humanité de l'homme, le principe d'humanité, est toujours quelque chose qui se construit, qui est en cours, qui est en route. Mmh. Et c'est quelque chose qui se déconstruit dès qu'on commence à être inattentif.
Alors, votre point de départ, enfin après avoir fait les constats que vous faites là, vous dites, voilà, nous vivons trois révolutions. La révolution économique, la révolution informatique ou numérique et la révolution génétique. Mais ce que vous dites, c'est que, en fait, c'est les effets conjugués de ces trois révolutions qui menacent les fondements du principe d'humanité. C'est-à-dire que, pris indépendamment, ces trois révolutions, en elles-mêmes, constituent des soucis, des problèmes et des réglementations. Mais c'est l'interaction entre les trois.
Il faut même être peut-être encore plus net que ça. Je pense, très honnêtement, je pense qu'on est en train de vivre une grande rupture historique, aussi importante que les trois ou quatre qui ont eu lieu en 2000 ans d'histoire. On est en train de vivre une chose énorme, gigantesque.
Jean-Claude, c'est pas le tam-tam du journaliste qui dit attention.
Non. Mais ça veut pas dire que c'est une catastrophe. Parce que la fin de l'Empire romain, ça n'a pas été qu'une catastrophe. La Renaissance, ça n'a pas été qu'une catastrophe.
Mais c'est aussi important que ça pour vous.
Absolument. Ça, je suis convaincu que si on prend quatre exemples, la fin de l'Empire romain au début du 5e siècle, c'est-à-dire la fin d'un monde qui avait duré 1000 ans. Bon. Ensuite, la Renaissance, c'est-à-dire la fin de la société féodale, la fin d'un autre monde qui avait lui aussi duré presque 1000 ans, au 14e et au 15e siècle. Le siècle des Lumières, puis la Révolution industrielle, on est en train de vivre quelque chose de cette importance. Donc il faut être modeste, parce qu'on a du mal à comprendre ce qui nous arrive. Comme les contemporains de ces événements que je viens de citer.
On sait jamais ce qu'on vit.
Avaient du mal. Vous savez, les gens de la Renaissance ne savaient pas qu'ils étaient en train de vivre la Renaissance. Ouais. Ils vivaient l'effondrement d'un monde. Aujourd'hui, je pense que c'est un événement de cette importance. Avec deux différences, à mon avis, capitales. Un, c'est que les choses vont plus vite. Beaucoup plus vite. Les événements que je vous citais, ils se sont en général déroulés sur un siècle. Là, les choses importantes se sont passées en 15 ou 20 ans. Mmh. Et deux, c'est mon idée, ou du moins c'est une grille de lecture que je propose. Je crois qu'on est en train de vivre non pas une révolution, mais trois en même temps. La révolution économique, c'est-à-dire la mondialisation. La révolution informatique, c'est-à-dire l'apparition d'un nouveau continent qui est partout et nulle part. C'est le cyberespace. Et trois, la révolution génétique. Or, jusqu'à présent, nous nous acharnons à comprendre chacune de ces révolutions en la prenant séparément. Mmh. Alors, on réfléchit à la mondialisation économique, la fin possible de la démocratie, la tyrannie des marchés financiers, tout ce que vous voulez. On réfléchit à la révolution informatique, on réfléchit à la révolution génétique. Or, je pense qu'il va falloir que nous apprenions à les penser ensemble, ces trois révolutions. Parce que c'est le fait qu'elles interagissent l'une sur l'autre qui les rend dangereuses. Donc c'est l'interaction de ces trois révolutions qu'il faut qu'un jour on apprenne à analyser, à décrypter. Ça commence.
Jean-Claude Guy, bon, on va prendre ces trois révolutions, l'économique, oui. la numérique et la génétique, et reprendre un peu les définitions que vous en donnez. Alors, donc, la révolution économique que nous vivons aujourd'hui, vous la faites commencer au 19e siècle, et vous dites, après d'autres et avec d'autres, que la chute du communisme en 89-91, disons, a donné une force extraordinaire à cette révolution économique. Vous dites, vous avez une métaphore qui est très utile, vous dites le génie, c'est-à-dire le marché, est sorti de la bouteille, c'est-à-dire la démocratie, la bouteille tenait, dites-vous, ce marché enfermé et domestiqué, et voilà que le génie est sorti de... autant que le marché soit génial, est sorti de la bouteille et s'est répandu partout.
C'est assez facile à comprendre, Daniel. C'est jusqu'à présent, disons depuis un siècle et demi, on avait appris tant bien que mal à discipliner et à civiliser l'économie libérale, le marché. Parce qu'il y avait des luttes sociales d'une part et qu'il y avait un modèle alternatif d'autre part. Il y avait le camp communiste qui était une pression continuelle. Aujourd'hui, avec l'effondrement du communisme, le système libéral est apparu désormais sans concurrence, donc il s'est dogmatisé. il n'a pas de modèle critique en face de
sans
lui.
Sans alternative. Oui.
Donc il est devenu aussi dogmatique que pouvait l'être le marxisme avant lui. Et puis deuxièmement, il s'est déterritorialisé. C'est-à-dire, comme il est désormais sans frontières, que les capitaux naviguent en une fraction de seconde d'un bout à l'autre de la planète, que les entreprises peuvent choisir où elles s'installent, sur un claquement de doigts comme ça, elles s'installent où c'est le plus intéressant pour elles, tandis que la démocratie, elle, continue d'être enfermée dans ses frontières nationales.
D'où une disparition, un risque de disparition du politique.
Bah, d'où une impuissance grandissante du politique, et d'où, en effet, un risque, à la limite, que nous passions d'une société démocratique à une société de marché, qui ne serait plus pilotée que par les lois du marché, et dans lesquelles la volonté politique n'aurait plus de prise. Quand une grande multinationale décide de fermer 4 usines dans un pays, en Europe occidentale ou en Pologne et tout, les gouvernements de ces pays-là ne peuvent rien. C'est la première révolution, c'est la révolution économique. Bien sûr qu'elle est redoutable parce que elle met en péril la volonté démocratique.
Jean-Claude Guibaud, cette révolution économique n'aurait pas été possible, ne serait pas possible sans l'autre révolution dont vous allez parler, c'est-à-dire la révolution numérique informatique. Parce que ces déplacements de capitaux à la vitesse de la lumière, ils ne sont possibles que grâce au numérique.
Exactement, Daniel. Cette révolution numérique, elle est bien plus importante qu'on ne le croit. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le téléphone portable, le micro-ordinateur chez soi, etc. C'est au fond la naissance, l'apparition d'un nouveau continent, le cyberespace, qui est aussi étrange et aussi intimidant que pouvait l'être, vous savez, le nouveau monde découvert par Christophe Colomb. C'est-à-dire, et qui, lui, a la particularité d'être à la fois partout et nulle part, de croître de manière démesurée, d'être totalement pour le moment immaîtrisé et immaîtrisable. C'est pour ça que c'est à la fois troublant et passionnant d'une certaine façon, parce que cette révolution numérique, elle change, elle modifie des concepts aussi fondamentaux pour nous que l'espace et le temps. Elle nous oblige à appréhender différemment, mais pour l'instant nous ne savons pas, parce que c'est complètement extravagant, l'espace et le temps, c'est-à-dire... Elle nous impose la notion d'immédiateté. Là, je renvoie à tout le travail que fait Paul Virilio sur cette question d'immédiateté qui est passionnant et qui est en même temps décervelant. Parce que, c'est-à-dire la disparition de la durée. Bon, c'est d'une certaine façon la disparition de quelque chose de fondamental pour nous. L'accumulation, la patience, la durée. Là, on est dans l'immédiateté. Et puis, la disparition de l'espace. Qu'est-ce que c'est que l'espace? Quand vous créez un site sur Internet, où est-il?
Voilà.
Géographiquement.
Voilà.
Il est nulle part et il est partout à la fois. En même temps. Donc, il y a quelque chose qui se brouille et qui est formidable. Alors, passer ce moment, si vous voulez, de fascination, c'est vrai que c'est une révolution extraordinaire. Mais c'est une révolution dangereuse. Pourquoi? Parce que, comme dans tout changement, elle ouvre la porte à des phénomènes de domination. Le cyberespace, c'est aussi le règne de Monsieur Bill Gates. C'est aussi le règne, possiblement, des marchands, des multinationales qui se mettent à vendre des choses interdites. Mmh. C'est le règne possible du trafic d'organes, de tout ce qu'on veut. C'est une jungle. Donc une jungle dure aux faibles et favorable aux forts. Et c'est une jungle qui va falloir la civiliser, l'appréhender, la reconquérir démocratiquement. C'est la deuxième révolution. Oui. Mais cette deuxième révolution, elle rend évidemment encore plus redoutable, encore plus efficace, encore plus incontrôlable la première. Oui, entre la révolution économique et la révolution numérique, il y a un lien entre les deux.
Course aux biotechnologies, vertige du cyberespace, manipulation génétique, tentation eugéniste, marchandisation du monde, chosification de la vie, la question devient de plus en plus obsédante et cette question, c'est simplement l'humanité, notre humanité, l'irréductible humanité de l'homme. Saurons-nous encore longtemps définir cette humanité? C'est une question qui pourrait paraître vague, vaste, scolaire, un sujet de débat, s'il n'y avait pas eu, pour Jean-Claude Guibaud, la Shoah qu'il vient d'évoquer, et s'il n'y avait pas aujourd'hui cette fantastique course au profit qui caractérise la mondialisation libérale, multipliée par la révolution informatique, numérique, qui permet cette délocalisation, c'est-à-dire plus de territoire, plus de lieux. On parle de site, mais il n'y a pas de site réellement. Et cette possibilité de propager, propagation et propagande permettent une inquiétude, ouvre une très profonde inquiétude aujourd'hui. Et Guillebeau tâche d'y répondre, d'enquêter au moins dans les divers savoirs, dans ce livre qui sort ces jours-ci, Le principe d'humanité au seuil. Alors, venons-en maintenant à la troisième révolution. On a la révolution économique, la révolution numérique, et la troisième révolution qui fait quand même l'objet de votre bouquin, Le principe d'humanité, qui sort là, c'est la révolution génétique. La révolution génétique, d'entrée de jeu, vous dites, la panique qu'on peut avoir face aux effets sur nous, toujours, hein, c'est nous qui sommes au milieu de votre histoire, hein, de notre histoire aussi, jusqu'à preuve du contraire, c'est que cette révolution est dominée par les lobbies de la biotechnologie et par les lois du marché, c'est donc par la première révolution.
Et par la seconde aussi, et par la seconde, si vous voulez. C'est-à-dire que la révolution génétique, la capacité que s'est donnée l'homme aujourd'hui d'intervenir non plus seulement sur le monde, mais sur la vie, sur la reproduction, c'est-à-dire sur les principes élémentaires de la perpétuation des espèces, la capacité qu'il s'est donnée, par exemple, d'inventer et de fabriquer de nouvelles espèces animales, et peut-être demain de nouvelles espèces humaines. Là, on a franchi, vous comprenez bien, un seuil considérable, mais qui est en même temps porteur de promesses. On peut imaginer une révolution de la médecine à très long terme, etc. Donc, il ne faut pas évidemment rejeter cette révolution génétique qui est porteuse de promesses, mais elle est porteuse de menaces. Oui. Pourquoi ? Parce que elle est entre les mains, pour l'instant, de l'argent. C'est-à-dire que la première révolution, la dépossession démocratique, en gros, est simultanée. Et en réalité, les vrais arbitrages, c'est la loi de l'argent qui les rend. Et nous avons quantité d'exemples où ce sont les lois du marché qui ont décidé si, oui ou non, tel progrès ou telle innovation biotechnologique allait être ou non réalisée. Donc il y a une course frénétique au profit et à l'efficacité économique qui renvoie, pardonnez-moi, mais au second plan, hélas, les préoccupations éthiques. En gros, c'est un peu ce que j'appelle le moins-disant éthique qui finit par l'emporter. Vous trouverez toujours un pays qui est plus laxiste que vous. Et quand on regarde les décisions acceptées ou les transgressions acceptées depuis 15 ans, y compris au sein des comités éthiques, on s'aperçoit qu'il s'agit toujours de capitulation progressive. Mmh. On finit par dire oui à ce qu'on interdisait l'année précédente. Donc on a tout de même l'impression qu'on marche à reculons, ce qui fait que certaines philosophes que j'estime beaucoup, je pense à Nadine Fresco, de manière un peu polémique, elle qualifie les comités éthiques de jardins d'acclimatation. Elle dit qu'au fond, ils servent à accoutumer l'opinion aux transgressions. Je lui laisse la responsabilité de sa formulation, mais qui est un peu fondée, parce que...
Ça fait froid dans le dos. Hein,
jardin d'acclimatation, c'est-à-dire qu'on lance une idée, hein, le clonage thérapeutique, par exemple. Alors au début, tout le monde est affolé, tout le monde trouve ça scandaleux, puis les comités éthiques s'en emparent, on en discute, puis petit à petit, l'opinion s'y accoutume.
Oui.
Et quelques années passent et on finit par dire oui à ce qu'on interdisait. Et c'est en ce sens que Nadine Fresco parle des comités éthiques comme des jardins d'acclimatation. Il suffit de prendre des exemples tout simples. Ça veut dire qu'en effet, derrière une espèce d'intrépidité comme ça, le progressisme, le progrès en marche, etc., se cachent parfois des régressions morales et politiques et idéologiques et de nouvelles dominations qui simplement se présente à nous déguisés avec des habits neufs et que nous ne savons plus reconnaître. Prenez un exemple. Nous combattons le racisme depuis longtemps. Et je pense que dans nos sociétés, c'est vrai, soyons honnêtes, nos sociétés sont tout de même moins ingénument racistes qu'elles pouvaient encore l'être il y a une vingtaine d'années. Disons
voilà,
que, bon,
moins ingénument.
Hein, bon, elles le sont peut-être de manière plus subtile, mais se profile aujourd'hui un nouveau racisme beaucoup plus insidieux qu'il faudra que demain nous apprenions à reconnaître, c'est le racisme génétique. Qu'est-ce que c'est que le racisme génétique ? On peut être plus ou moins bien doté génétiquement, on peut être porteur de gènes un peu embarrassants parce qu'ils prédisposent à certaines maladies, etc. Nous avons tous un patrimoine génétique. Et ce patrimoine génétique, on sait aujourd'hui le décrypter comme on prenait les empreintes digitales autrefois. Oui, on vous prend votre patrimoine génétique. Très bien. Alors, vous comprenez bien que comme il y a des gens moins bien dotés que d'autres, le danger, c'est que il y a une discrimination génétique qui s'installe. Et ce n'est pas un danger futuriste, parce que voilà que ce danger se réalise déjà dans deux domaines bien précis. Les tests à l'embauche. C'est-à-dire que dans certains pays, je pense aux États-Unis ou à l'Angleterre, on a accepté que les employeurs fassent subir à leurs candidats à l'embauche des tests génétiques. Ça veut dire que les gens qui seront pas bien dotés génétiquement, eh ben, ils seront pas embauchés. Donc c'est une forme de racisme simple, c'est une forme de racisme génétique. Mais évidemment,
il fait
moins scandale parce que on parle pas de la couleur de la peau et tout. Deuxième terrain sur lequel cette discrimination est déjà opératoire, c'est le droit des assurances. Vous savez que pour ce qui concerne la France, on a toujours refusé jusqu'à présent que les tests génétiques soient acceptés soient utilisés par les assureurs, encore que la législation est ambiguë. Mais certains pays comme l'Angleterre, le Danemark, les États-Unis l'ont accepté. Et ces tests génétiques deviennent couramment utilisés dans le droit des assurances. On voit bien que se profile donc une forme de nouveau racisme. Si les choses prennent de l'ampleur, si nous sommes inattentifs à cela, eh bien, en effet, le racisme génétique, ce sera lentement substitué au racisme lié à la couleur de la peau que nous avons, avec tant de difficultés, appris à combattre. Donc, vous voyez, sous la modernité la plus évidente, peut se dissimuler aussi des formes de régression idéologique qu'il faut savoir simplement apprendre à lire et à regarder.
Jean-Claude Guilbeault, ce qui revient toujours dans votre bouquin avec cette première phrase « L'humanité n'est pas héréditaire », c'est qu'en fait, c'est ça, ça va pas de soi. Être un homme, l'homme étant, c'est pas évident, c'est pas une chose qui va de soi. Là, vous avez des chapitres incroyables, des informations de journalistes, là, hein, sur les organes, par exemple, sur ce tourisme des organes, etc. Mais c'est vrai qu'il faut en permanence redéfinir ses limites, pour revenir à la phrase de Castoriadis, enfin à l'idée de Castoriadis qui n'est pas la sienne propre, mais il y a des limites à définir et à redéfinir presque chaque jour.
Oui, on peut dire aussi les choses différemment, Daniel. Ça veut dire la même chose, en fait. C'est-à-dire, n'oublions jamais que l'humanité de l'homme, c'est-à-dire ce qui fait de nous des humains, c'est pas une donnée scientifique. C'est une conquête. C'est quelque chose qui est toujours en cours. C'est-à-dire qu'au fond, notre humanité est toujours un projet. C'est toujours quelque chose que nous construisons sans cesse, qui peut se déconstruire. Ce n'est pas un acquis, c'est pas une espèce de donnée comme il y a la mer, la montagne, le sol, sur lequel nous pouvons somnoler. L'humanité de l'homme...
C'est vouloir l'humanité de l'homme.
C'est-à-dire que l'humanité de l'homme, c'est un projet, c'est une décision quotidienne...
C'est une pensée, ça.
...de chacun d'entre nous, c'est une pensée.
C'est une pensée. Mais vous avez un chapitre sur l'homme réduit à l'animal, où vous parlez de la deep ecology, c'est-à-dire ces gens qui pensent que tout irait mieux si l'homme acceptait de disparaître, quoi. Hein, l'environnement, c'est beau, les animaux, c'est beau, mais il y a quelqu'un qui est en trop, c'est l'homme. Et ça a l'air d'être un peu caricatural. Ces gens, je suppose, vous allez nous le dire, sont peut-être un peu minoritaires quelque part, je ne sais où, sur cette planète. Mais en fait, on voit qu'à travers tout ça, même chez les scientifiques, enfin les techno-scientifiques, l'homme fait obstacle. C'est l'homme qui gêne.
Il faut faire bien attention là à faire la distinction entre les gens raisonnables et les cinglés. Et je cite l'exemple qui est assez connu, c'est ce philosophe australien, mais qui a beaucoup d'audience dans le monde anglo-saxon, qui s'appelle Peter Singer, et c'est lui qui a lancé ce qu'on appelle le Great Ape Project, le projet grand singe. Alors que dit Peter Singer ? Il dit, il faut que nous étendions la Déclaration universelle des droits de l'homme aux gorilles, aux chimpanzés, aux orang-outans. C'est-à-dire qu'on fasse plus la différence entre l'homme et les grands singes. Alors, il semble partir d'un bon sentiment en disant cela. L'ennui, c'est que, vous savez ce qu'il ajoute ? Et c'est là où tout d'un coup, évidemment, on se rend compte de ce qui se dissimule derrière ce type de philosophie. Il ajoute parce qu'au fond, il y a moins de différence entre un homme bien portant et un grand singe qu'entre un homme bien portant et un handicapé mental. Et au nom de quoi, dit-il, au nom de quoi ferions-nous bénéficier un handicapé mental de la Déclaration des droits de l'homme et pas un grand singe ? Autrement dit, il propose de faire passer la barrière entre l'humanité et la non-humanité à l'intérieur des hommes eux-mêmes.
Alors, un autre souci, c'est l'homme réduit à la machine. Là, vous parlez longuement de l'intelligence artificielle. C'est une recherche qui dure depuis 40 ans. Et dans le Monde diplomatique du mois d'août, il y avait un papier, mais tout à fait affolant, sur ces chercheurs japonais qui sont en train de créer un nouveau cerveau. il y a quelque chose là aussi d'affolant.
Il faut être un peu pédagogique là, Daniel Pamandi, c'est assez intéressant. Là, vous faites allusion à un vaste domaine de la connaissance, c'est ce qu'on appelle les sciences cognitives. Qu'est-ce que c'est que les sciences cognitives? C'est l'étude du mode d'acquisition des connaissances. En gros, c'est l'étude du fonctionnement du cerveau. Les sciences cognitives, elles se sont développées depuis le milieu des années 50, donc ça remonte à assez longtemps. Elles ont pris la suite de ce qu'on appelait la cybernétique. Et elles se sont progressivement affrontées à la question centrale qui est celle-ci. Est-ce qu'on peut assimiler le fonctionnement du cerveau humain au fonctionnement d'un ordinateur? Et si oui, alors est-ce qu'on pourra demain fabriquer artificiellement un cerveau? Est-ce qu'on sera un jour capable de produire une intelligence artificielle?
Mais ces gars-là répondent oui.
Alors, pour certains cognitivistes, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de différence fondamentale entre le cerveau humain et l'ordinateur. Ça veut dire, disent-ils, que des notions comme la conscience, l'esprit, ce sont des choses qui n'existent pas. Ce sont des croyances archaïques qu'il faudra un jour congédier. Ce sont des superstitions. La conscience humaine n'existe pas. L'esprit humain n'existe pas, disent-ils.
Les psychiatres et les psychanalystes qui nous écoutent.
Disent-ils. Évidemment, pour eux, les psychanalystes, les psychiatres sont des plaisantins. Bon, alors ça, ce sont les extrémistes, si vous voulez. Heureusement, depuis une quinzaine d'années, la tendance est plutôt à revenir sur certaines de ces positions les plus extrémistes, les plus ridicules, parce que vous vous rendez bien compte qu'elles entraînent immédiatement des conséquences politiques et morales presque insolubles. Moi, je pose une question simple, toute simple. Si vous acceptez l'idée qu'il n'y a pas de différence entre un cerveau humain et un ordinateur, comment allez-vous expliquer qu'il est plus grave de tuer un homme que d'éteindre un ordinateur?
Il y aura un jour, peut-être, où mon ordinateur tombera amoureux de moi. Et ce jour-là, je vous le ferai savoir. Mais d'ici là, si on écoute Jean-Claude Guibaud, si surtout on lit son bouquin qui vient de paraître, Le principe d'humanité, on se dit que nous voilà contraints à redéfinir notre humanité. Quand je dis nous, c'est nous, vous et moi. C'est pas les scientifiques, même s'ils ont leur mot à dire, bien évidemment, mais les spécialistes ne sont pas habilités à penser ce qui est du ressort de l'humain. Pas plus, d'ailleurs, que ces comités de bioéthique sur lesquels, vous l'avez entendu, des soupçons pèsent lourdement. Nous avons donc tout un travail à faire face au bonheur catastrophique qui nous menace. Alors, derrière tout ça, il y a quand même le problème du financement de la recherche. Parce que tout ça est très beau, mais comment contrôler ces recherches? Vous le dites, et ça on comprend très bien que c'est cette course au profit qui fait que la technoscience et toutes ces recherches-là sont des démarches inquiétantes aujourd'hui. Mais comment financer? Est-ce que c'est l'État? Mais y voilà, qui doit financer ces recherches? Parce que si c'est pas l'État, c'est qui? C'est des investisseurs. Les investisseurs veulent des profits, veulent des retours sur investissement.
Vous mettez exactement le doigt où ça fait mal, si j'ose dire. Parce que c'est la grande question, si vous voulez. À partir du moment où ces recherches deviennent terriblement coûteuses, et que, d'autre part, comme on l'a dit à propos de la première révolution, les États reculent, ont tendance à perdre du terrain. La puissance étatique, le collectif, le bien public, ce sont des notions qui sont un petit peu en voie de retrait. La plupart de ces recherches sont aujourd'hui financées par des laboratoires privés et par des sociétés privées, qui sont donc logiquement animées par quoi ? Par la quête du profit.
Et des bonnes intentions.
Oui. Enfin, principalement la quête du profit.
Oui, bien sûr.
Or,
oui.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une bonne partie de la recherche scientifique aujourd'hui est gouvernée non plus par ce qu'on appelait autrefois la validité académique ou la pertinence ou la soif de comprendre, mais par la recherche du profit. Et je cite plusieurs, en tout cas, chercheuses américaines, professeurs de génétique à New York, des femmes qui s'inquiètent de ce que le poids de l'argent est devenu tellement fort dans ces matières que c'est aujourd'hui les recherches en amont qui sont décidées en fonction des profits futurs. Et qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus des chercheurs, de jeunes chercheurs, qui deviennent les hommes d'affaires de leurs propres découvertes. Et qui créent leur start-up, à peine ont-ils trouvé quelque chose en matière de génétique.
S'il n'y a pas de brevetage, n'entamez pas la recherche.
Et s'il n'y a pas de marché, il ne faut pas rechercher les choses. Et c'est une révolution angoissante. Pourquoi ? Parce que c'est l'idée même de connaissance scientifique qui s'en trouve chamboulée. C'est le concept même de savoir scientifique qui change dans la mesure où il est désormais défini, décidé en amont par les lois de la rentabilité. Et c'est la recherche scientifique qui fonctionne comme cela. Ce sont parfois des commissions administratives américaines qui font des rapports pour s'alarmer de cela. Je cite le rapport Varnus, qui a été publié au milieu des années 90, qui s'inquiétait, qui dénonçait le bluff des laboratoires privés, qui avaient tendance à faire des tas de promesses inconsidérées pour justifier leurs recherches avec imprudence, notamment en ce qui concerne la thérapie génique. Donc il y a une forme de mensonge, de propagande qui abuse les gens et qui mystifie les gens. Et c'était un rapport officiel de l'administration américaine qui dénonçait cela. Oui, c'était pas des écologistes obscurantistes. Il y a donc cet arraisonnement de la recherche scientifique par l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait d'accepter ou non la science.
Et ça, c'est une indéniable régression.
C'est une indéniable régression, et c'est quelque chose qui est, par définition, redoutablement dangereux. Regardez, il se trouve qu'il y a quelques mois, on a vu un tout petit exemple de ce à quoi peut aboutir cette loi du profit. C'est l'affaire de la trithérapie contre le sida appliquée en Afrique. Tout simplement, les grands laboratoires privés qui ont mis au point ces trithérapies concernant le sida, dans leur course au profit, on aboutit au fait que ce sont des trithérapies qui pourraient sauver des millions de gens, mais qui sont beaucoup trop chères pour les pays d'Afrique ou les pays du tiers-monde, c'est le Brésil qui a lancé cette affaire. Nous verrons demain, si nous laissons se développer cette pure logique économique et cette pure logique de profit, nous verrons se développer demain des injustices de cette taille-là. Et de cette importance-là, que nous ne pourrons pas accepter.
Alors, on a parlé de ce que vous appelez la modernité régressive, c'est-à-dire comment, sous cette modernité qui, encore une fois, tâche de nous intimider, on voit apparaître des régressions et des idéologies tout à fait
et des injustices
suspectes et dépassées. Vous montrez comment l'eugénisme, qui a l'air d'avoir trouvé son aboutissement avec le nazisme, était une idée qui avait disparu complètement de nos pensées, de nos concepts. Et vous montrez comment, en fait, cet eugénisme, aujourd'hui, sous le masque de la technoscience, revient.
Bien sûr. D'abord, il faut dire qu'on s'est menti à nous-mêmes pendant 50 ans sur l'eugénisme. Après la découverte de l'eugénisme pratiqué par les nazis, c'est-à-dire l'extermination des handicapés mentaux, des vieillards, des impotents, etc. Cette mode de sélection naturelle allant jusqu'à l'extermination, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a évidemment assimilé dans notre esprit l'eugénisme au nazisme. Le simple mot d'eugénisme définissait le mal. C'était un mal absolu. Et pendant 50 ans, on a complètement oublié un détail. C'est que, en réalité, même si les nazis avaient poussé jusqu'à son point extrême, c'est-à-dire jusqu'à l'extermination de l'eugénisme n'est pas du tout né chez les nazis. Il est d'origine anglo-saxonne, il est né au XIXe siècle dans la communauté scientifique. Et l'eugénisme, pendant plusieurs décennies, a été, disons, la pensée dominante de certaines démocraties occidentales nombreuses, les États-Unis, l'Angleterre, etc., les pays anglo-saxons, les pays scandinaves. Et donc, le fait qu'on ait voulu, pendant une bonne trentaine d'années, sciemment, améliorer l'espèce humaine, comme on améliorait les races de chevaux ou les races de bœufs aux États-Unis, comment on a voulu pratiquer donc cette amélioration de l'espèce humaine par interdiction de certains mariages, par stérilisation des handicapés mentaux, etc. On avait oublié tout cela. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, en effet, avec la révolution génétique, avec la nouvelle médecine qui se profile pour demain, c'est-à-dire une médecine, une thérapie génique qui permettra peut-être d'éliminer certaines prédispositions à des maladies en intervenant sur les gènes, avec la capacité que nous avons désormais d'intervenir sur l'embryon avant même sa naissance, ou même de pratiquer le diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire de choisir parmi plusieurs embryons, celui qu'on va implanter dans l'utérus de la femme, évidemment, l'eugénisme revient sur le devant de la scène avec des moyens nouveaux et des moyens formidables. Sauf que nous avons, comme je vous le disais, perdu la mémoire sur l'eugénisme. Et que nous avons tendance à ne plus savoir débattre de ces questions-là. Et il y a aujourd'hui devant nous, en effet, cette grande question de se ressouvenir des imprudences qui ont été les nôtres dans les années 10, dans les années 20, dans les années 30, et qui ont tout naturellement préparé le terrain au nazisme. Il y a à nous ressouvenir de la façon avec laquelle les scientifiques se sont parfois hâtivement ralliés au projet eugéniste. Vous savez, parce que la plupart des scientifiques étaient très eugénistes, encore dans les années 20 ou dans les années 30. Qui a protesté à l'époque? Qui n'a pas protesté? Pourquoi est-ce que jusqu'au milieu des années 70, on a pratiqué la stérilisation dans des pays comme la Suède, mmh, ou certains pays scandinaves? Qu'est-ce qui était en jeu à ce moment-là? Qu'est-ce que ça signifie tout d'un coup de considérer que un handicapé mental, sa vie ne mérite pas d'être vécue? Quel regard allons-nous porter sur eux? Voilà, en effet, au sujet de l'eugénisme, un immense travail qui est devant nous et qui se fera tôt ou tard.
Pour vous, vivre, c'est résister. Hein, c'est une idée que je partage, effectivement, qu'il n'y a pas de vie sans résistance, y compris la résistance à l'irrésistible. Quelle résistance pouvons-nous, nous, généralistes, citoyens, ordinaires, on va dire comme ça, opposer à ces menaces?
Mais on l'oppose tous les jours, cette résistance, Daniel. D'abord, gardons-nous de tout catastrophisme. Chaque époque...
Ah, vous êtes inquiétant,
non,
quand même.
Mais, vous savez, chaque époque a eu ses dangers spécifiques. Donc chaque époque, par certains côtés, était inquiétante. Vous savez, nos grands-parents qui sont sortis de la guerre de 14-18, vous savez, hein, ils n'avaient pas une vision très rose du monde. Hein, celle de nos parents... après la découverte des camps de concentration nazis, elle n'était pas très rose. Et moi, je me souviens que la vision que, étudiants, nous avions de la possible apocalypse nucléaire, on avait la quasi-certitude qu'on connaîtrait la guerre nucléaire. Donc,
le
chaque
ciel
époque,
nous tomberait sur la
oui,
tête, oui.
On vivait dans cette quasi-certitude. Donc, les inquiétudes d'aujourd'hui, il faut les relativiser, il faut les désigner, ne pas du tout être aveugle, mais il faut donc les désigner pour apprendre simplement à leur résister. Donc, j'ai envie de vous dire... C'est vrai que ça nous ramène à Castoriadis. Ça nous ramène à cet homme qui a beaucoup compté pour moi et à qui je dois beaucoup, et à cette phrase magnifique, au fond, vers laquelle on revient souvent et sans cesse, c'est « Une société humaine montre son degré de civilisation à sa capacité de s'auto-limiter. »
C'est ça.
C'est-à-dire de résister.
Penser, c'est penser les limites, disait-il.
Et au fond, plus va, plus... Je me demande si on ne devient pas homme à partir du moment où on dit non. Qu'est-ce donc qu'être un homme, sinon de refuser la fatalité de la nature, de l'évolution, de l'économie? Quel autre animal est capable de se lever pour dire non, je ne suis pas d'accord? Est-ce qu'au fond, donc, la résistance, c'est la définition, peut-être, du principe d'humanité lui-même?
Jean-Claude Guilbeault, dans son bouquin, cite un généticien qui s'appelle Arnold Munich et qui s'émerveille de cet être vivant qu'est l'homme, qui possède 10 millions de milliards de connexions de neurones et qui en cela est unique. Mais il ajoute ceci, ce généticien, eh bien, encore plus que ces interactions à l'intérieur de nous-mêmes, ce sont les liens que nous tissons avec autrui au cours de notre existence qui constituent en réalité le fondement de notre originalité humaine. Voilà quelque chose qui peut peut-être nous encourager. Merci à Jean-Claude Guilbeault. Le principe d'humanité, donc, ça sort au seuil. Technique aujourd'hui, Stéphane de Vernet et Cécile Finet, assistant Antoine Dabrowski, assistante Joël Levert. Le répondeur de la base, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. L'email, daniel.mermet@radiofrance.fr. www.radioclassique.com et deux réalisateurs pour cette émission, Bruno Carpentier et Antoine Chao. Il va être 18h sur France Inter, voilà, je vous le disais. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain à 17h pour La Voix si j'y suis. Je vous laisse pour le journal avec Claire Servageant. Salut!